pour la dixième, troisième partie de ce Radio Barque, donc, Didier Mouly, maire de Narbonne. Alors, maire sortant, puisqu'on a bientôt des élections, vous avez, depuis quelque temps, déclaré très clairement que vous représentiez, donc il n'y a pas de suspense à ce niveau-là, on en redira un petit mot à l'occasion. Mais ce week-end est quand même une date, j'imagine, marquante dans votre mandat de maire, puisque c'est l'inauguration de l'Arena. Alors,
l'Arena,
qu'est-ce que ça évoque et quel sentiment ça vous apporte, Didier Mouly?
Ben, un sentiment de satisfaction pour les Narbonnais qui vont trouver en cette salle plusieurs moments de vie, que ça soit pour des congrès, mais surtout que ça soit pour du sport de haut niveau ou des spectacles. Ça manque sur notre territoire. On s'en aperçoit par les réservations qui sont effectuées aujourd'hui, quelle que soit la génération. Vous avez l'annonce du concert du 4 janvier qui aujourd'hui fait salle comble. Et c'est certes un spectacle gratuit qui est offert par la ville, comme chaque année d'ailleurs, mais c'était au théâtre jusqu'à présent. Et on va passer de 3 fois 900 places à 3000 places d'entrée qui sont déjà réservées depuis cette semaine. Donc on s'aperçoit que c'est un besoin que l'ensemble des habitants de la Narbonnaise avaient, et en même temps les personnes qui sont à proximité de cette Narbonnaise, que ce soit dans le Minervois ou dans les villes voisines.
Alors, tout à l'heure, on a parlé du pessimisme ambiant des Français. Chez les Narbonnais, il existe aussi. Et franchement, la construction de cette aréna, ça n'a pas été un long fleuve tranquille.
C'est le constat que tout le monde peut faire, personnellement le premier, puisque dès l'arrivée à la mairie, l'adjoint en charge de l'urbanisme avait lancé ce projet. 2 ans après, cet adjoint quitte ses fonctions et il retombe sur l'ensemble des élus de travailler ce projet qui avait été initialement prévu et contracté avec les Narbonnais. C'est vrai que ça a été difficile, non seulement dans la mise en place du projet, puis dans le marché, des procédures, des recours, des anecdotes régulières à l'occasion du conseil municipal pour l'opposition municipale, mais enfin aujourd'hui, un bâtiment qui esthétiquement et architecturalement arrête le regard, un environnement qui a été préservé, amélioré et qui plaît à tout le monde, et puis après une occupation de la salle qui, je pense, va plaire aussi à tout le monde.
Alors justement, les pessimistes ou les opposants politiques, parfois c'est pas forcément sincère et ressenti de manière profonde, mais beaucoup ont dit bon, à Narbonne, on n'a pas besoin de ça, ça va coûter trop cher, ça sera extrêmement déficitaire, Narbonne est trop petit. Enfin, vous avez entendu ces mêmes arguments que tout le monde. Aujourd'hui, avec un tout petit peu de recul, il n'y en a pas encore beaucoup, mais quels sont vos espoirs?
Ben, l'espoir, c'est que l'ensemble de la ville profite et bénéficie de cette salle. Je vais prendre le premier spectacle, et on pourrait prendre le second de la même manière, qui s'appelle le spectacle de soprano. Non seulement vous avez la salle qui est pleine, mais vous n'avez aucune chambre disponible dans l'hôtellerie sur Narbonne à travers ce soir-là, le soir du 13 décembre. Ça montre que économiquement, elle va rejaillir sur l'ensemble de la Narbonnaise. Parce qu'il y a très certainement les chambres d'hôtes ou les gîtes qui vont être aussi pris par le public qui va venir là. Donc on se dit que économiquement, elle a apporté pendant sa construction beaucoup d'heures de travail et beaucoup d'argent sur le territoire de la Narbonnaise. Et dès qu'elle sera en fonctionnement, elle va apporter économiquement aussi beaucoup à la Narbonnaise.
Oui, on a bien compris que c'était un outil, ça doit être un outil économique, pas seulement, mais largement économique. Mais alors, ça ne va pas être géré directement par la mairie, c'est une délégation de services publics, par la Société Nationale Espace. Donc, vous allez me dire que c'est à eux maintenant de gérer économiquement cette situation, mais grosso modo, sur quelle zone de rayonnement a-t-on basé le recrutement, si je puis dire, ou l'attraction ?
Je pense que c'est un complément aux salles de Toulouse et de Montpellier, et que le bassin qui va permettre à l'aréna d'avoir des spectateurs, c'est ce bassin qui part du Tarn et un peu derrière le Biterrois et aussi vers la Catalogne. Et c'est ce bassin qui va alimenter. C'est plus facile d'aller à Narbonne que d'aller à Montpellier ou à Toulouse, surtout à Toulouse. Le temps est plus proche et on se sent à proximité. Ce territoire qui est déterminé par ces départements qui nous entourent, c'est un territoire qui est fort en clientèle possible pour l'aréna.
Alors, il y a aussi le sport. C'est depuis longtemps, on a un club qui est en national, c'est le volley. D'ailleurs, c'est le seul aujourd'hui. Mais ce club était un petit peu étouffé dans son palais du travail. Là, tout d'un coup, il a une possibilité d'exploser, entre guillemets.
Il va exploser, j'en suis intimement persuadé, au niveau de la fréquentation, au niveau des personnes qui vont venir. Puisque vous apercevez que les clubs voisins qui sont au même niveau sportif, que ce soit Montpellier ou Sète ou Toulouse, remplissent leur part des sports ou remplissent les endroits où ils font l'exercice de leur sport. Je pense que les dirigeants du Narbonne Volley ont aujourd'hui pris conscience que à côté de la démonstration sportive, il y a un spectacle. Et ce spectacle va donner un plus à l'envie d'aller à l'aréna les voir jouer. Il faut que le résultat sportif suive, mais je pense qu'ils vont attirer un public qu'ils n'avaient pas jusqu'à présent, le public riverain, voisin de Narbonne. Et c'est en cela que c'est important. Mais surtout, sportivement, il ne faut pas se limiter à un sport. J'espère qu'on va avoir des représentations à une échelle beaucoup plus régionale ou même nationale de sports qui viendront se servir de l'aréna pour faire du sport de haut niveau dans cette salle.
Alors, oui, des démonstrations, enfin, pas des clubs peut-être de la ville, forcément.
Non, pas des clubs de la ville, forcément, mais des démonstrations, que ce soit des championnats de catégorie jeune ou des adultes qui viendront du style l'escrime ou du style hand, qui auront la possibilité de venir dans notre Occitanie et à Narbonne présenter des championnats de qualité et de valeur.
Parallèlement donc à cette faculté de bien consolider et d'accroître le prestige de ces centurions, de ce club. Qui lui est un club narbonnais.
Purement narbonnais, mais qui s'ouvre sur l'ensemble du territoire, puisqu'il est au plus haut niveau en matière de volley, avec des résultats, certes pas les derniers, mais avec des résultats qui étaient quand même prometteurs pour dire qu'il y aura un maintien à ce niveau-là.
Alors à propos de club, il y a un grand club qui est centenaire et qui est dans un sport de prédilection, c'est le rugby, bien évidemment. Bon, on va pas revenir sur les vicissitudes qu'a connu le Racing depuis pas mal de temps, mais il semble ces temps-ci quand même que, depuis quelques semaines, ça relève la tête, il y a une espèce d'engouement, un enthousiasme qui se crée. Et alors, on apprend, on le savait déjà, mais je le remets sur la table et je pose la question au maire de Narbonne. Le stade serait limité à 3000 spectateurs dans l'accueil des tribunes.
Aujourd'hui, parce que effectivement, il faut remettre à jour le stade par des moyens de réhabilitation, réfection de l'électricité. Les normes ont changé en matière de fermeture, coupe, incendie, etc. Et c'est tout ce qui se passe sous les tribunes qu'il faut réaliser. Et le chantier est en cours. Beaucoup de travaux ont été faits sur les tribunes elles-mêmes, répondant à ces nouvelles normes d'élargissement des espaces, des vomitoires qui permettent aux spectateurs d'être évacués s'il y avait nécessité ou urgence. Et maintenant, on fait la deuxième phase qui est à l'intérieur du parc des sports, du stade, de remettre en état tout ce qui est un peu ancien et vétuste.
Et alors, est-ce qu'il y a une date de fin des travaux qui est prévue ?
Alors, la date de fin des travaux, non, puisque c'est assez long dans la réalisation. Ça ne sera très certainement pas fini avant l'été 2020. Tout est fait pour que ça soit fini avant, dans l'hypothèse où il y ait des phases finales importantes en fédéral, permettant au Racing d'évoluer dans un cadre qui réponde aux besoins du public.
Oui, justement, parce que le Racing recommence à attirer du public. On l'a vu sur les derniers matchs et c'est confirmé par les responsables du Racing. J'en profite d'ailleurs pour dire qu'ils sont à ce micro la semaine prochaine.
Cinq micros, il vous faudra.
Pas tous, mais enfin... Quelques-uns, et nous ferons le point, bien entendu, sur toutes ces choses-là. Mais donc, voilà, il y a encore une phase un peu transitoire au niveau des travaux.
Pour avoir l'homologation du stade à sa capacité optimale d'accueil de supporters, de public, il faut effectivement finir ces travaux qui sont entamés, puisque les marchés sont lancés, la technicité est connue, enfin, on a les clés en main, et le financement est fait, même si on sollicite la région pour nous accompagner dans le financement complémentaire. Il restera après le problème de l'éclairage en cas de réussite en Pro D2, puisqu'il y a un nombre de LUS qui est nécessaire pour permettre aux télévisions d'être présentes sur le stade. Mais ça, c'est une autre phase, un autre dossier qui sera ouvert en son temps. Mais on a l'appui déjà de la région, qui est à nos côtés, et je ne saurais que remercier Didier Codorniou de son impact important sur ce dossier du stade auprès de la région, qui a donné son accord de principe. Après, il faut trouver les modalités, quel pourcentage de financement et quels travaux seront pris en charge.
Alors, pour réconforter les supporters du Racing, qu'ils sachent que si jamais ils remontent en Pro D2 l'an prochain, d'ici là, ils pourront accueillir de nouveau du public.
Oui, sans aucune difficulté.
Voilà,
en
bon.
On fera tout pour ça.
Alors maintenant, à eux de continuer à relever la tête, cela va de soi. Et concernant les problèmes de la ville, bien entendu, il y en a un certain nombre, mais il y en a un sur lequel je voudrais revenir, même si, je sais, Didier Mouly, vous allez nous dire, c'est pas la possibilité, c'est pas la compétence de la ville, mais le service de maternité de la polyclinique a fermé, le personnel s'est battu cet été pour essayer de maintenir, d'abord de maintenir le service, de maintenir leurs emplois. Ils ont contacté les élus, vous-même, Didier Mouly, avez été contacté. Je crois que vous êtes allé voir l'ARS à ce sujet.
Effectivement.
Pouvez-vous nous raconter ?
La ville et les élus de la ville ne peuvent pas ignorer des problèmes humains qui concerneraient certaines entreprises. Vinadis, avec la SICA des Val-d'Orbieu, qui ferme et que vont devenir les salariés. La polyclinique annonce la fermeture de sa maternité, que vont devenir les agents de ce service maternité. Donc la ville a été sollicitée par les sages-femmes et les aides-soignantes. On les a reçus avec le docteur Courrèges et les services de la ville pour travailler dans un accompagnement de ces personnes, soit pour maintenir la maternité, soit pour trouver une issue favorable au plan social qui pouvait être mis en place. Et à la demande des sages-femmes et aides-soignantes, j'ai sollicité un rendez-vous de la part du directeur de l'Agence régionale de la santé pour comprendre comment on pouvait subir une fermeture aussi violemment d'une maternité, que ce soit pour les employés ou les bénéficiaires ou la patientèle de cette maternité. L'ARS a un pouvoir d'accorder des lits à un centre hospitalier ou à une clinique, mais il n'a pas son mot à dire sur la fermeture d'un service, d'une maternité ou la suppression de lits. C'est un petit peu cette difficulté que je voulais éclaircir avec le directeur et lui demander, mais venez l'expliquer au personnel de la polyclinique. Ça ne rentre pas dans ses compétences, ça ne rentre pas dans ses cordes et il n'a pas pu répondre favorablement à cette demande. Je n'ai pas été déçu par l'entretien, mais j'ai trouvé que celui-ci me laissait avec beaucoup de questions et de points d'interrogation.
Et alors, on sait qu'il y avait eu des pourparlers avec l'hôpital pour essayer de faire un système plus ou moins mixte, selon une formule juridiquement compliquée, mais enfin qui existe, afin que les futures mères de la Narbonnaise ne soient pas, à un moment ou un autre, contraintes d'aller accoucher à Béziers ou à Perpignan ou à Carcassonne.
C'est déjà le cas pour les personnes de Port-la-Nouvelle ou de Lézignan, si je prends sur le périmètre de compétence de cette clinique les accouchements. Effectivement, le centre hospitalier s'est rapproché de la polyclinique pour travailler ensemble sur cette création d'une maternité qui permettrait d'avoir un plus grand nombre de naissances et en même temps un plus grand nombre de spécialistes, que ça soit dans les gynécos, que ça soit dans les sages-femmes, que ce soit surtout dans la partie pédiatrie qui doit aussi accompagner une maternité. Des très nombreuses réunions, si j'ai bonne mémoire, 12 réunions ont eu lieu sans que cet accord puisse se trouver. Là aussi, la question a été posée au directeur de l'Agence régionale de santé, qui n'a pas participé à ces réunions, qui n'a pas été invité, et qui aurait peut-être été celui qui permettrait ce rapprochement. Ce n'est pas non plus dans ses compétences, paraît-il. Il prend acte s'il y a un accord, et il accompagne l'accord, mais il ne peut pas participer à un préalable d'un accord, ce qui est regrettable dans les fonctions d'un ARS.
Oui, ça donne beaucoup le sentiment d'impuissance, finalement, parce qu'on a des phénomènes qui nous tombent sur la tête sans que... J'ai l'impression que personne ou qui...
C'est la tristesse de ce monde économique, hein, c'est que c'est le dirigeant d'une entreprise qui décide, même s'il est lié contractuellement avec une agence sur la santé. Je pense quand même que l'action du personnel de la polyclinique n'a pas été vaine et a permis d'avoir un plan social qui les accompagne sur plusieurs années dans l'hypothèse où ce personnel féminin ne retrouverait pas une place, un travail digne de l'ancienneté qu'elles avaient dans ce métier ou des diplômes qu'elles ont obtenus. Je pense que ça a servi à ça.
Ouais, mais on a eu l'impression à un moment que direction de la polyclinique et direction de l'hôpital se renvoyaient la balle. Là, il est clair que c'est une volonté de la polyclinique de fermer un service qu'il juge non rentable.
C'est effectivement cela. La polyclinique a décidé toute seule, brutalement, économiquement aussi certainement, qu'elle allait fermer ce service sans avoir d'autres réunions ou vouloir d'autres réunions, d'autres discussions avec le centre hospitalier.
Alors tout à l'heure, Michel Santo parlait de l'agglo qu'il ne trouve pas rigolo, mais il évoquait notamment le fait que, par exemple, le président Bascou a choisi de soutenir financièrement l'aéroport donc de Carcassonne en disant son point de vue, lui, son regard, et en soulignant que ça n'était pas légal, que ça n'était pas la compétence. Vous êtes vous-même, alors, bon, je ne vais pas revenir sur toutes les bisbilles de l'agglo, ou en tout cas, ce n'est pas, on n'aurait pas le temps de faire le tour, mais que vous inspire ce genre de réflexion, et surtout, comme vous vous représentez à la mairie, vous serez probablement, si vous êtes élu, conseiller communautaire, peut-être un des vice-présidents. Donc vous aurez votre mot à dire sur la future gestion de cette agglomération, le Grand Narbonne.
Cette gestion du Grand Narbonne, dès le début, dès 2014, l'ensemble des élus minoritaires l'a contesté. Et notamment sur le problème de financement, la participation au financement de l'aéroport de Carcassonne. Il nous a été rétorqué que c'était dans un intérêt économique, mais à travers le tourisme. Et les arguments qu'on pouvait avancer pour dire il n'y a aucun élément d'étude ou quoi que ce soit, je disais en aparté à Michel, il n'y a aucune navette bus, par exemple, qui est là pour accompagner ces fameux touristes vers Narbonne. Il n'y a aucune publicité sur l'aéroport ou au point de départ des lignes qui vont vers Carcassonne précisant que Narbonne existe. C'est un petit peu cette difficulté.
Ce qui serait une contrepartie cohérente de l'apport financier de Narbonne.
Effectivement, si le tourisme est un des éléments économiques de notre territoire, autant favoriser certaines actions. Mais là, il n'y a rien d'autre que le versement d'un chèque chaque année qui ne correspond pas à une réalité économique, touristique, quel qu'en soit le fondement. Après, il y a le côté légal, comme le souligne justement Michel, de dire « c'est pas de la compétence ». Mais il y a tellement de choses qui n'ont pas la compétence. J'aurais préféré, Jean-Claude, que l'agglo se préoccupe sur notre territoire, sur le territoire de la Narbonnaise, que toutes les communes de la Narbonnaise aient une station d'épuration ou une station d'épuration partagée. Aujourd'hui, nous avons un territoire qui n'a pas, dans chacune de ces communes, une station d'épuration. Je dis que c'est grave. Et ça, la Cour des comptes, elle ne le souligne pas. Or, dans les investissements, c'était une des priorités à partir de 2014. On est en 2019. C'est grave de ne pas avoir pensé à cela. Et il y a d'autres exemples comme cela.
Alors, agglomération, j'ai envie de dire, agglomération versus ville, on s'est aperçu que parfois c'est un combat, même si ça n'était pas destiné a priori à l'être. Un certain nombre de maires se plaignent qu'ils ont été un petit peu dépouillés de leurs compétences par rapport à l'agglo. Est-ce que c'est, mis à part ces bisbilles, alors politiques ou politiciennes, de ce mandat, est-ce que c'est votre sentiment général ou est-ce que vous êtes, comme certains maires, à fond pour l'agglo ?
Alors, je ne suis ni à fond ni contre. Je pense qu'il faut qu'il y ait un partage qui permette à l'ensemble de ces communes de s'y retrouver. Vous avez la notion de police municipale et de police de l'agglomération. Les communes ne l'ont pas voulu perdre, et c'est pas péjoratif quand je le dis, leur garde champêtre apparaît grave dans une commune de taille avec peu d'habitants. Mais rien n'empêche demain à ce que l'agglomération prenne en charge non seulement la police municipale de la ville-centre ou de villes importantes de son agglomération, et en même temps les gardes champêtres, et qu'on garde cette proximité. C'est un peu par exemple pour les permis de construire. Le plan local d'urbanisme et le plan intercommunautaire d'urbanisme ne font pas perdre au maire le pouvoir de signer un permis de construire. Mais ça, tout le monde ne le perçoit pas de la même manière. Je pense qu'il faut qu'il y ait un accompagnement de l'agglomération sur certains services. Et je pense aussi que l'on peut mutualiser les services. Aujourd'hui, il n'est pas logique et normal que des communes de l'agglomération aient un service du droit des sols ou un service d'urbanisme en plus du service de l'urbanisme du droit des sols de l'agglomération. Il y a quelque chose qui ne va pas. Ou l'agglomération s'en dépouille, ou l'agglomération les prend tous. Et là, il faut un accord de l'ensemble des communes. C'est ça qui est difficile, l'ensemble des communes.
Oui, on s'aperçoit qu'il y a un certain nombre de zones d'ombre encore dans la gestion de territoires mal délimités. Voilà, il va falloir conclure, puisque le...
Michel aurait voulu ajouter juste un petit mot. Je pense que Jean-Claude peut pouvez lui laisser
si,
ce petit temps.
Si c'est un tout petit mot, oui.
Mais ce sera très rapide, hein, simplement pour noter, faire connaître peut-être à Didier Mouly que la loi qui va être votée, l'engagement à la proximité, va permettre dorénavant en fait, aux agglos de déléguer la gestion des services communautaires à des communes.
Voilà.
C'est-à-dire qu'on peut on pourrait très bien concevoir une police faite de l'agglo qui délègue effectivement la gestion de la compétence en question à la ville-centre.
À condition que les autres communes ne soient pas jalouses de cette délégation. Tout le problème est là.
Voilà. Donc c'est pas aussi simple qu'il y paraît, mais en tout cas, merci Didier Mouly.
Merci à tous les deux, et permettez-moi de vous souhaiter de bonnes fêtes fin d'année, tant à vous qu'à surtout vos auditeurs.
Puisque c'est le cas, et nous imaginons que dans quelques semaines, vous allez entrer en campagne, donc voilà, c'est parti, et je rappelle surtout que ce week-end est un week-end, alors certains aiment bien les grandes formules avec les Magic Weekends, celui de Narbonne, c'est celui de l'inauguration de l'Arena, puisque c'est quand même du grand spectacle.
En ce samedi, vous avez la première Sainte-Barbe départementale organisée par les sapeurs-pompiers à Narbonne. Vous avez l'ouverture des chalets et le début des féeries, et vous avez l'inauguration de l'Arena. Un week-end effectivement très chargé.
Un départ en grande pompe. Merci Didier Mouly. Prochain et dernier d'ailleurs de l'année 2019. Prochain Radio Barque, nous y recevrons. Alors, nous l'avons évoqué tout à l'heure, le Racing est en train de un petit peu de reprendre du poil de la bête. Nous recevrons quelques-uns de ses présidents pour faire le point et envisager l'avenir. Merci de nous avoir suivis et à la semaine prochaine.
À la semaine prochaine.